Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 52e émission de Complètement à l'Ouest. Et aujourd'hui, nous allons être double, voire triple. Nous allons désinformer, nous allons guetter et agir au moment où notre ennemi s'y attendra le moins en utilisant, pourquoi pas, quelques gadgets technologiques. Bref, nous allons nous faire espions en pénétrant les secrets d'une des institutions qui fait fantasmer à l'évocation de ces trois lettres connues ou redoutées, CIA. DGSE en France, Mossad en Israël, MI6 au Royaume-Uni, SVR en Russie et bien sûr CIA aux États-Unis. Nous allons donc aujourd'hui parler espionnage en nous intéressant à une grande maison créée en 1947, la Central Intelligence Agency, basée dans l'État américain de Virginie, plus précisément à Langley. Woody Allen disait « J'aurais voulu être espion, mais il fallait que j'avale des microfilms et mon médecin me l'a interdit. » Quant à Vladimir Poutine, passé par le KGB, pour lui, je le cite, « Le métier d'espion rappelle beaucoup celui des journalistes. » Je ne sais pas qui dit vrai, Allen ou Poutine, mais en tout cas, mon invité a passé du temps pour comprendre et décrire ce mastodonte du renseignement et de l'espionnage américain, en particulier depuis le traumatisme national du 11 septembre 2001. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Antoine Mariotti.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Avec grand plaisir, bienvenue au micro de Complètement à l'ouest pour cette émission consacrée, je le disais, à l'univers de l'espionnage et en particulier le monde secret de la CIA américaine. Antoine Mariotti, vous publiez L'Agence, 2. Histoire secrète de la CIA, c'est aux éditions Talendier. Et au-delà de ce récit, pour mieux vous cerner, vous ne passez pas seulement votre temps derrière un clavier à écrire, puisque vous êtes journaliste pour France 24. En tant que journaliste justement de terrain, vous avez notamment couvert la guerre en Syrie. Vous avez aussi été correspondant à Jérusalem et avez écrit et réalisé plusieurs documentaires, dont celui du 11 septembre, 20 ans de chaos. Et j'ajoute, c'est pile poil dans l'actualité géopolitique, que vous avez aussi publié La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien. C'était en 2021 et là aussi chez l'éditeur Talendier. Antoine Mariotti, il est de tradition de démarrer cette émission par un court extrait sonore pour se mettre dans l'ambiance. Et là, comment dire, sans un certain humour, il va être question d'espionnage et de CIA. On l'écoute.
Et toi alors, mon vieux Bill, la CIA s'intéresse à l'Amérique du Sud maintenant ?
Ah, sacré Hubert, toujours le mot pour rire. What a jerk. You stupid son of a bitch. Oh, quel putain de chaleur!
Trêve de plaisanterie. Pourquoi me suivais-tu, Bill?
C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu fais ici, bastard, hein? Qu'est-ce que c'est trame?
Il se trame que je suis en congé, Bill. Ni plus ni moins.
Come on, cut the crap, hein? Je te connais, Hubert.
Allez, voilà pour cet extrait du film que nous connaissons tous, OSS 117, Rio ne répond plus. Et bien sûr, cette scène entre le franchouillard et agent secret Hubert Bonisseur de la BART, de la BAT, et l'agent local de la CIA au Brésil, le bien nommé Bill Tremendous. Antoine Mariotti, je commence par cette double question, et au-delà du gag de cette séquence, je reprendrai la question de notre espion national interprété par Jean Dujardin. Est-ce que la CIA s'intéresse toujours à l'Amérique du Sud? Première question. Et puis votre livre, L'Agence, histoire secrète de la CIA, aborde des sujets souvent tenus secrets. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer en profondeur l'histoire de la CIA et quel a été votre plus grand défi quand il s'agit de démêler vérités historiques et mythes qui entourent l'agence?
Alors c'est vrai qu'on... peut prendre OSS 117 comme référence. Par rapport à la période traitée, bon, c'est clair que les États-Unis, la CIA, s'intéressent beaucoup moins à l'Amérique du Sud qu'à la grande époque des Castro, du Nicaragua, etc. Donc, ils s'intéressent à tout. Ils sont à peu près dans tous les pays du monde. Je dis à peu près parce que dans les années 90, par exemple, ils se sont pas mal retirés d'Afrique, ce qui leur a posé problème quand il a fallu refaire des recherches à un moment donné après. Donc là, on se base plus sur la coopération avec d'autres États, avec la DGSE, par exemple, française, le MI6, ça dépend chacun un petit peu ces zones sur lesquelles ils sont plus forts, ou ces sujets d'ailleurs, la prolifération nucléaire, ce genre de choses. Donc ils ont en tête leur cartographie, ils savent à qui demander quand il y a besoin d'éclaircissement en plus, même si tout se monnaie et que ce sont des échanges. Donc ils s'intéressent toujours à l'Amérique du Sud sans non plus être, je pense, c'est pas la priorité numéro un de la CIA, loin de là aujourd'hui, entre l'antiterrorisme, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, c'est beaucoup plus ça les priorités aujourd'hui. Et maintenant que Donald Trump est de retour au pouvoir, on va évidemment voir tout ce qui évolue. Et puis j'en profite pour revenir sur les deux citations de tout à l'heure. J'aime beaucoup celle de Woody Allen, je voudrais le rassurer.
Sur les microfilms.
Il y a plus beaucoup de microfilms à avaler, donc a priori ça va. C'est quand même rarissime. Et une fois n'est pas coutume, je vais être un peu d'accord avec Vladimir Poutine. Parce que finalement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre l'espion et le journaliste. Évidemment qu'on ne fait pas les mêmes choses, que le journaliste n'est pas là pour essayer de voler des informations ou autres, ce que ne fait pas systématiquement l'espion d'ailleurs. Mais en revanche, on est là pour chacun dans notre couloir et dans notre thématique, essayer de trouver les faits, essayer de vérifier les faits, essayer de donner une information la plus sûre possible. Et ensuite, c'est pas à nous de l'interpréter ou de prendre une décision par rapport à ça, c'est nos lecteurs. C'est-à-dire que le journaliste, c'est à notre lecteur, notre auditeur, notre téléspectateur, de se faire une idée sur le conflit en Ukraine, par exemple, en fonction de toutes les informations les plus vérifiées possibles que nous, on aura réussi à trouver en tant que journaliste. Et de l'autre côté, c'est aux politiques qui reçoivent tous les rapports des espions, qui sont là aussi des informations les plus vérifiées possibles, de prendre une décision, et là, de prendre des décisions politiques par rapport à ça. Et souvent, quand je parle à des espions ou des anciens espions, on tombe d'accord pour se dire que tiens, on a ça en commun quand même. Après, il y a des pratiques qui sont différentes, il y a la clandestinité, etc., que l'on n'a pas en tant que journaliste. Mais il y a ça en tout cas en commun, d'essayer d'avoir l'info la plus juste possible. Et ensuite, c'est pas à nous de dire qui a tort ou qui a raison. Nous, on est là pour donner les faits et libre à nos auditoires de se faire une opinion. Et qu'est-ce qui m'a poussé à, pour revenir à la question, à écrire ce livre.
Et en particulier en démêlant aussi le vrai du faux, quoi.
Exactement. En fait, on a beaucoup parlé de la CIA, c'est toujours quelque chose d'un peu mythique. Moi, je me suis toujours intéressé aux renseignements, j'ai fait deux podcasts aussi sur le sujet. Dans mon premier livre sur la Syrie, La honte de l'Occident, qui permet quand même de comprendre ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Donc, pardon de la promo,
on va en parler, bien sûr.
Il faut relire ce genre de choses, et pas que le mien, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je parle un petit peu d'opérations de renseignement, parce que ça fait partie, finalement. Et pour comprendre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller à la source, c'est-à-dire aller interroger, et c'est ce que j'ai fait pour la honte de l'Occident, mais aussi là, des décideurs politiques, des espions, des diplomates, etc., pour comprendre ce qui s'est passé en coulisses à certains moments clés, et ensuite comprendre pourquoi Assad était resté, ça faisait 10 ans que mon livre est sorti, que le printemps arabe avait commencé, il était toujours là. Donc vous voyez, ce genre de choses, moi j'aime bien aller voir ça, plutôt que d'interroger 150 000 chercheurs et avoir des analyses. Chacun après se fait son opinion, je pense que les faits sur la Syrie étaient suffisamment clairs pour qu'on tombe pas dans un pro-assadisme forcené. Donc voilà, donc j'avais envie d'aller faire ça aussi sur la CIA, sachant qu'on avait beaucoup écrit sur l'époque de la guerre froide, des Moudjahidines dans les années 80, etc. Et j'avais envie, ça me manquait d'avoir un livre vraiment sur la CIA de ma manière plus moderne, finalement, avec ce point de départ qui était le 11 septembre.
Donc concrètement, vous êtes allé à la rencontre d'espions de la CIA, ou qui en faisaient partie, ou peut-être qui en font encore partie, et puis vous les avez interrogés sur leur quotidien, la manière dont l'agence fonctionne, on va y revenir.
Exactement, sur leur quotidien, sur la manière dont ça fonctionne, et puis pour que ce soit un peu concret quand même pour les lecteurs, et c'était de parler d'histoires très concrètes aussi, et de moments un peu importants. Alors il y a des moments très connus, comme les armes de destruction massive en Irak, comme la torture, etc. Donc il n'était pas question de les passer à la trappe, même si c'était pas ma priorité, mais j'en ai parlé, j'ai enquêté, j'ai interrogé des gens qui étaient impliqués là-dedans, pour pouvoir mieux comprendre justement en coulisses ce qui s'est passé, parce qu'on connaît la grande histoire, mais là c'est d'aller faire parler les acteurs, ceux qui étaient là à être convaincus qu'il y avait des armes de destruction massive, qui réalisent petit à petit que mince, il se plante complètement depuis des mois ou des années, et qu'il y en a qui, pour des raisons politiques, eh bien, ont voulu dire qu'il y avait des armes de destruction massive alors qu'ils en savaient absolument rien, etc. Donc c'est d'aller voir un peu ceux qui étaient au cœur, et puis il y a d'autres histoires qui, elles, ne sont pas connues, mais sont révélées, mais qui permettent de mieux comprendre le quotidien des espions. Et c'est très différent et c'est parfois loin des fantasmes.
Alors dans votre livre, vous explorez plusieurs opérations secrètes et des événements marquants de l'histoire de la CIA, dont bien sûr l'échec du renseignement américain qui n'a pas vu ou qui n'a pas forcément voulu voir les signes avant-coureurs du 11 septembre. Donc le 11 septembre, c'est un peu le démarrage de votre livre. Oui. C'est aussi un nouveau moment, un nouveau chapitre de la CIA.
Ah oui, c'est un moment de bascule extrêmement important pour la CIA. Je vous donne un exemple concret. Avant le 11 septembre, vous avez une unité dans la CIA qu'on appelle le Centre de Contre-Terrorisme, le CTC. C'était un peu le placard avant le 11 septembre. À part le chef qui était Koffer Black, parce qu'on va pas mettre n'importe qui en chef, qui était un officier reconnu. Bon, c'était en général, si on savait pas quoi faire de quelqu'un, on le mettait au centre de contre-terrorisme, quoi. Du jour au lendemain, les effectifs triplent, littéralement, le 11 septembre au soir, les effectifs ont triplé et le budget du centre de contre-terrorisme est illimité. À tel point qu'à un moment donné, un des officiers vient voir Koffer Black en lui disant, écoute, j'ai une idée, j'ai peut-être une source potentielle, ça coûte un peu d'argent, il faudrait aller là. Et Koffer Black le laisse même pas répondre, il dit, écoute, je m'en fous. J'ai tellement d'argent, je ne saurais même pas comment tout dépenser, donc fais ce que tu veux, vas-y. Ça s'est passé comme ça du jour au lendemain. Évidemment qu'aujourd'hui, tout le soufflet est retombé, donc ça ne se passe plus comme ça. Mais au lendemain du 11 septembre, il y avait un tel malaise d'avoir laissé passer ça.
Il y avait des signes avant-coureurs.
Oui, il y avait des signes avant-coureurs. J'y viens, oui, vous avez raison. Il y avait un tel malaise d'avoir laissé passer ça, il y avait une telle peur aussi que ça recommence. Et ça, on oublie ça aujourd'hui. Mais c'est ce qui a poussé un peu à la torture, à toutes ces choses-là, ce qui n'excuse rien, évidemment. Mais il faut redonner le contexte. Et il y avait une peur bleue que ça recommence. Il y avait une peur bleue, rappelez-vous, d'attentats à l'anthrax. Donc, à des armes chimiques. Il y avait des enveloppes qui arrivaient au Congrès, etc. Donc, ils ont mis des moyens colossaux pour pouvoir arrêter tout ça. Et ils ont pris des effectifs dans tous les services. Ceux sur la Russie, ceux sur la Chine, ceux sur ci, sur ça. Chacun a dû donner des hommes et des femmes pour le centre de contre-terrorisme. Il y a des unités qui se sont retrouvées avec 2, 3, 4 personnes seulement pour traiter de leur sujet parce que c'était pas prioritaire.
Et 23 ans après, où en sommes-nous? Les effectifs en question sont toujours aussi pléthoriques, aussi nombreux, ça a été redispatché?
Ils sont très importants, mais ça s'est un peu rééquilibré quand même. C'est-à-dire que pendant 20 ans, je dirais jusqu'à la chute de Kaboul 20 ans après, donc en août 2021, le contre-terrorisme était quand même une grosse priorité. Aujourd'hui, la priorité reste quand même la Chine. Ça a été la Corée du Nord pendant le premier mandat Trump. On va voir si recommence maintenant. Et puis pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs ? Oui, il y a eu des signes avant-coureurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, quand Bill Clinton est président des États-Unis, il n'en a rien à faire de la CIA. Le patron, James Woosley, essaye désespérément d'avoir un rendez-vous avec Bill Clinton. Il n'arrive jamais à l'avoir et à rentrer dans le bureau ovale. À tel point qu'à un moment, il y a un petit avion de tourisme qui s'écrase sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Et tout ce qui était un accident, pas du tout un attentat, il n'y a pas eu de dégâts, à part pour l'avion évidemment, et la pelouse. Mais ça, c'est pas très grave. Mais que tout Washington s'est amusé à dire « Ah bah c'est Woosley qui essaye de rentrer dans le bureau ovale ». Lui, ça l'a pas du tout fait rigoler, mais c'est pour vous dire à quel point il n'y arrivait pas. Alors que sous Bush, Tenet, finalement, après le 11 septembre, toutes les semaines, tous les matins même, il était dans le bureau ovale. Mais George Tenet, le directeur de la CIA, à la fin du mandat Clinton et qui reste au début de Bush, et qui est là au moment du 11 septembre, lui avait compris la menace Al-Qaïda. Koffer Black, dont je vous parlais tout à l'heure, le chef du centre de contre-terrorisme, avait lui aussi compris, c'était quelques-uns à avoir compris, mais en termes de politique... au FBI aussi, il n'a qu'avait compris, on ne s'y intéressait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le 11 septembre pour que le Tenet et le chef du contre-terrorisme à la Maison-Blanche, le coordinateur Richard Clark, arrivent enfin à pouvoir organiser une réunion sur le sujet à la Maison-Blanche, alors que depuis janvier que Bush avait pris le pouvoir, eh bien, il demandait sans cesse cette réunion et que sans cesse était repoussé par Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale, et par George Bush.
Alors, vous citez Clinton, Bush, et vous écrivez, c'était à la page 212, qu'avec l'élection du démocrate Barack Obama à la Maison-Blanche, c'est la fin d'une ère. Obama va nommer Léon Panetta, qui sera à la tête de la CIA de 2009 à 2011, donc trois ans. C'est Léon Panetta qui dit d'ailleurs, et c'est en exergue de votre livre, « Nous savons comment retrouver les terroristes, mais pas comment les empêcher de devenir des terroristes ». 8 ans après les attentats du World Trade Center, à vous lire, on a l'impression que les 3 années Panetta, 2009-2011, ont marqué la CIA, et si oui, en quoi ?
Oui, ça a marqué la CIA parce que déjà, c'est la fin de l'ère Bush. Qu'on met définitivement derrière nous les histoires de torture et ce genre de choses, qu'il va réorganiser la CIA pour pouvoir attraper enfin Ben Laden. Et c'est quand même sous son mandat qu'on attrape Ben Laden. Et il réorganise. Quand il arrive, il fait sa première réunion. Il dit, bon, qui ici est chargé de la traque de Ben Laden ? Et ils sont 7, 8, 9 à lever la main. Il dit, attendez. Et il me dit, quand je l'interroge, je l'ai interrogé plusieurs fois, et il me dit, moi, si j'ai bien appris une année dans mes années de management, c'est que quand tout le monde est en charge, personne n'est en charge. Donc, on n'y arrive pas. Donc là, il désigne 2 personnes qui sont désormais chargées de coordonner toute cette lutte-là. Ils reprennent tout au début. Il les remet en question à un moment donné.
Il les challenge, quoi.
Ils ont plus trop de solutions. Ils piquent une gueulante pas possible. C'est quelqu'un de très affable, Panetta. Extrêmement efficace, extrêmement sérieux, mais très très drôle, très sympa, etc. Donc, mais s'il pique une colère, il pique une colère. Et là, il leur a dit, vous avez intérêt à arriver avec 10 réponses, 10 nouvelles solutions demain, même si elles sont loufoques, je veux le retour de l'inventivité. Il s'en va, son chef de cabinet va voir les responsables de la traque, leur dit, écoutez, vous en a demandé 10, si j'étais vous, j'arriverais avec 20. Hein? C'est votre tête qui est en jeu. Et quand ils sont arrivés à la réunion après, ils sont arrivés avec 33, je crois. Ouais, oui. Et il y avait des choses qui étaient complètement loufoques, genre jeter des boules puantes pour que tout le monde sorte de la maison où ils aient soupçonné que Ben Laden était là. Des choses un peu, mettre des haut-parleurs pour dire c'est Dieu qui vous parle, sortez tout de suite. Vous voyez, il y a eu des trucs complètement loufoques, mais au moins l'inventivité était là et petit à petit ils ont réussi à trouver des solutions parce que c'est comme ça que ça marche.
Jusqu'à l'assaut,
qui a été un succès, alors qu'il n'y avait pas 100% de chance qu'il était là. Donc oui, ça a changé. Il a redonné de la crédibilité à la CIA, qui avait pris un sacré coup avec le 11 septembre. Et puis, il y a un autre homme qui, quand même, j'en profite pour en parler, qui a changé la CIA aussi, c'est John Brennan, est venu un peu après. Et lui, il a changé un peu la réorganisation. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après. Mais il a changé un petit peu parce que, à l'époque, Panetta, il était conseiller pour le terrorisme à la Maison Blanche avec Obama. C'est un ancien lui-même officier de la CIA, qui était en poste en Arabie Saoudite, etc. Qui n'est pas réputé pour avoir été très bon sur le terrain, d'ailleurs. Tant pis pour lui. Désolé pour cette balle perdue. Mais quand il est arrivé à la tête de la CIA, il a réorganisé. C'est-à-dire qu'à la CIA, vous avez toujours 2 grandes familles. Les officiers, c'est-à-dire des espions de terrain, les analystes sont ceux qui sont chargés de récupérer ces informations, de tout mettre, de mettre le puzzle en place, si vous voulez, de mettre toutes les pièces ensemble. Et chacun ne pouvait pas voir l'autre. Les analystes, c'est les autres, les officiers, c'est des cow-boys, ils réfléchissent à rien. Les officiers disaient, les analystes, de toute façon, c'est des intellos, ils comprennent rien au terrain, à notre vrai boulot. Bon, bref. À tel point que dans les années 80, ils mangeaient dans des cafétérias différentes au siège de la CIA. Vous voyez le délire un peu. Et finalement, après le 11 septembre, ils ont plus travaillé ensemble. Il y a eu plus d'analystes déployés sur le terrain, notamment en Irak. C'était un changement de paradigme. Au début, on les envoyait sur le terrain, mais ils n'avaient pas d'armes. Sauf qu'ils étaient dans un terrain de guerre. Ils n'avaient pas le droit de sortir de la station. Donc, ils disaient à leur chef, mais à quoi ça sert? Dans ce cas-là, autant que je reste à Washington tranquillement, à l'Anglie. Donc, finalement, ils ont fini par être armés, à pouvoir aller sur le terrain aussi, à traquer, etc. Il y avait d'ailleurs des targeteurs, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de cibler une personne. Zarqawi, par exemple, le chef d'Al-Qaïda en Irak, et qui passaient leur vie uniquement sur cette personnalité. Et John Brennan a fait en sorte qu'ils travaillent définitivement ensemble, c'est-à-dire que au lieu d'avoir juste une division Russie, et qui en plus était en 2 branches, les officiers d'un côté, les analystes de l'autre, et même pas dans le même bâtiment, il a dit désormais en faire des sujets thématiques, c'est-à-dire que par exemple, vous avez ce qu'on appelle des centres de mission maintenant, donc un centre de mission sur l'Asie, et là vous avez les analystes et les officiers qui travaillent sur l'Asie, qui sont en même temps sur le même plateau à travailler ensemble, les mains dans la main, et au moins c'est plus cohérent.
Et y compris avec les autres agences, par exemple la NSA, enfin tout ça est intégré à cette réflexion commune, à ces informations communes ?
Alors, c'est pas intégré au fonctionnement de la CIA. En revanche, il y a une coordination. Et vous avez ce qu'on... Avant, c'était le patron de la CIA qui était le patron de l'ensemble de la communauté du renseignement, 18 agences aux États-Unis. Depuis le 11 septembre, c'est le directeur national du renseignement. Donc, on aurait pu se dire, tiens, c'est comme en France, où il y a une petite unité, où ils sont 10-12, et ils coordonnent finalement toutes les informations pour les mettre ensemble et faire un bilan pour le président. Non, là, ils ont créé une direction du renseignement national avec 1500 employés, donc histoire de rajouter une couche encore plus à l'administration, bref. mais qui rassemble un peu tout. Et c'est-à-dire qu'il va récupérer les renseignements de la NSA, donc qui s'occupe essentiellement des écoutes, des surveillances satellitaires, etc. Les renseignements de la CIA, donc beaucoup de terrain, du renseignement militaire, etc., etc. Mais sur la réorganisation même de la CIA, ça c'est leur plateau, c'est uniquement eux. Il est intéressant de voir d'ailleurs qu'en fonction des présidents, donc des priorités de la Maison Blanche, eh bien ces centres de mission changent. Donc par exemple sous Trump, vous aviez un centre de mission Corée du Nord, et vous en aviez pas sous la Chine, pardonnez-moi. Quand Biden est arrivé, il a supprimé sur le Corée du Nord, il a dit bon, la Corée du Nord ça rentre dans le grand centre de mission sur l'Asie. Par contre on en fait un sur la Chine parce que c'est notre priorité. Il y en avait un sur l'Iran pareil sous Trump. On va voir ce qu'il fait maintenant dans les mois qui viennent.
Justement, il y a dans votre livre, et dernière question avant la pause musicale, c'est à la page 335, un chapitre au titre évocateur Obsession Trumpienne. Alors nous sommes début février, Donald Trump a nommé quelques jours après sa victoire de novembre dernier John Ratcliffe à la tête de la CIA. Ratcliffe a d'ailleurs été directeur du renseignement national. Il a été choisi notamment évidemment pour son engagement à défendre les droits constitutionnels des Américains. Selon vous, dans quel sens la CIA va-t-elle pencher, ou plutôt que va être la CIA avec à sa tête Ratcliffe qui rendra donc des comptes directement à Trump?
C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr à 100%. On a évidemment des feelings, chacun a ses sentiments. Mais il y a tellement de surprises avec Donald Trump que je pense qu'il faut être prudent. Je ne suis pas sûr que sa priorité redevienne la Corée du Nord comme c'était le cas à un moment. Il a essayé, ça n'a pas marché, il a compris. Est-ce qu'il va réessayer en se basant sur sa première expérience? On verra. Je raconte d'ailleurs toute la diplomatie parallèle menée par la CIA dans ce livre, comment le directeur de la CIA lui-même a été secrètement à Pyongyang pour rencontrer Kim Jong-un, donc le dirigeant dictateur nord-coréen, pour ensuite préparer les rencontres avec Trump. À mon avis, l'Iran va être une vraie priorité. Je pense que sur le Moyen-Orient, d'une manière générale, ils vont mettre les moyens pour s'assurer que tout ça se stabilise et voilà. Et
l'Ukraine,
et l'Iran,
aussi,
il aimerait bien, je pense, régler le problème définitivement. Alors, soit en bombardant, soit en trouvant un deal, comme il aime le faire. Ce qui n'est pas impossible, les circonstances sont là pour un deal. L'Iran est un peu affaibli. Son principal allié est d'ailleurs sous fifre, le Hezbollah, a été sacrément chamboulé et tout son état-major a été tué. Ils vont se reconstruire, faut pas s'en faire pour eux. La Syrie, Assad est tombé, donc leur principal allié aussi, donc leur pont vers la Méditerranée. Eux-mêmes ont été bombardés chez eux et en termes de crédibilité, ils ont eu beau réussir à frapper Israël, ils ont quand même sacrément eu mal. Donc tout ça est compliqué. Ils ont une économie en lambeaux, ils ont un nouveau dirigeant qui est plus ouvert et qui n'est plus un archi-conservateur, parce que celui-ci est mort dans un accident d'hélicoptère. Donc il y a eu une élection présidentielle il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est un modéré, c'est pas un réformateur, mais c'est un modéré qui de suite a dit qu'il était prêt à négocier sur le nucléaire iranien. Je pense que les Iraniens ont compris que s'ils allaient un peu trop loin maintenant dans leur nucléaire iranien, et ils sont déjà allés loin, par la faute de Trump qui s'était retiré de l'accord, parenthèse d'ailleurs, parce que jusque-là, ils respectaient le deal, les Iraniens, bah, s'ils vont trop loin, peut-être qu'ils vont se faire un peu plus bombarder. Ils l'ont compris, que ce soit avec Trump qui revienne ou avec les Israéliens qui ont montré qu'ils n'avaient pas peur. Donc à mon avis, ils sont aussi très envie d'avoir cet accord. Et ça arrange bien Trump, qui va leur tordre un peu plus le bras pour essayer d'avoir cet accord. C'est pas impossible. Est-ce qu'il sera respecté, tout ça, on verra, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, je mettrai un petit billet là-dessus. Je mettrai pas toute mon épargne, mais un petit billet.
Allez, on verra. En attendant, on va marquer une petite pause musicale avec le morceau de circonstance. Il s'agit de Johnny Rivers, Secret Agent Man, un titre qui date de 1966. On l'écoute.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind.
saw you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name.
Allez, de retour avec Antoine Mariotti, journaliste à France 24 qui publie l'agence Histoire secrète de la CIA aux éditions Talendier. Alors en lisant votre livre, on voit que le post 11 septembre, la CIA a été en grande partie réorientée vers le contre-terrorisme, on en a longuement parlé. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, et parmi ces œufs cassés, il y a les Black Sites, ces sites noirs qui sont des prisons clandestines contrôlées par la CIA et implantées en Afghanistan, en Europe de l'Est, au Maroc, à Cuba évidemment avec Guantanamo. Comment l'agence sait-elle justifier ou justifie-t-elle encore ces prisons clandestines hors territoire américain ?
Alors ça dépend à qui vous parlez. Il y en a qui n'assument pas du tout, qui en font encore des cauchemars, qui se disent mais on a participé à des choses absolument abominables et ça n'a aucun sens et il faut que certaines personnes aillent en prison. Et il y en a d'autres qui assument complètement, qui sont persuadés ou en tout cas veulent faire croire qu'ils sont persuadés que ça a servi à obtenir des informations cruciales pour éviter des attentats. D'autres comme le FBI disent c'est pas vrai, on avait déjà ces informations, donc c'est faux. Et puis on ne peut pas avoir de fiabilité quand on torture quelqu'un. On ne sait pas si la personne dit la vérité ou si elle vous invente quelque chose plus ou moins proche de la vérité pour que les tortures cessent. Et du coup, c'est l'éternel problème. Et ce qu'il y a, c'est que à l'époque, vous aviez le directeur du centre de contre-terrorisme qui s'appelait José Rodriguez, qui avait pris la suite donc un peu plus tard de Koffer Black, qui était complètement impliqué là-dedans. Son adjointe était une certaine Gina Haspel, qui est devenue directrice de la CIA sous Donald Trump, et qui a été la chef d'un de ces black sites en Thaïlande d'ailleurs, où il y a eu des tortures. Et comment dire, ils ont ordonné la destruction des vidéos d'enregistrement. C'est-à-dire que les tortures avaient été filmées, ce qui posait problème évidemment. Il y avait déjà eu des vidéos d'Abu Ghraib qui étaient sorties, donc les tortures par l'armée américaine et pas par
Guantanamo
la CIA.
Aussi.
Oui, à Guantanamo c'est différent parce que c'est pas des tortures à Guantanamo, c'est vraiment un lieu extrajudiciaire où finalement on les enferme ad vitam aeternam et personne ne peut rien nous dire. Abu Ghraib, il y avait eu des tortures, de l'humiliation. Des détenus minus avec des chiens qui leur sautaient dessus, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Et ils se sont dit s'il y a ça, on va avoir un problème et évidemment c'est pas une super image, voilà. Et ils ont pas eu l'autorisation de leur hiérarchie, la Maison Blanche, pour supprimer les cassettes, mais comme ils craignaient pour eux, eh bien ils ont ordonné la destruction de ces cassettes. Le lendemain, ils ont, parce qu'il y a eu un article du Washington Post quelques jours avant seulement qui dévoilait le fait qu'il y avait des tortures et des sites secrets. Et du coup, ils ont ordonné ces destructions là qui ont été faites en dehors de tout cadre légal, mais ils n'ont jamais été poursuivis. Et d'ailleurs, Obama a voulu redonner de la crédibilité à l'agence, et on en a parlé avec Leon Panetta, tout ça, mais c'est lui qui a couvert tout le monde, et qui a dit il n'y aura pas de chasse aux sorcières, et personne ne sera poursuivi. On apprécie ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait.
Toute dernière question, parce que vraiment, le temps file, et c'est passionnant. Question en lien avec l'actualité, à l'heure où l'actualité, justement, géopolitique, est celle de la chute du clan Al-Assad en Syrie. En tout cas, ça s'est passé au mois de décembre. Je rappelais en début d'émission que vous avez écrit La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien. C'est toujours chez Talendier. Quelle est votre analyse sur le nouvel équilibre du Moyen-Orient, dont toutes les cartes ou presque ont été rebattues depuis les attaques du Hamas sur le territoire israélien, et puis en particulier depuis mi-décembre, je le disais, après 14 ans de guerre civile, le renversement du régime de Bachar el-Assad. C'est quoi l'issue de tout cela dans cette zone géographique que vous connaissez bien ?
Il y a un mot que l'on utilise beaucoup en tant que journaliste et qui m'insupporte, c'est historique, ou vous savez, ces carrefours stratégiques qui ont été pris, alors qu'il y a eu 150 000 carrefours stratégiques qui ont été pris en Syrie depuis le début du conflit. Donc ça m'agace toujours parce que c'est très galvaudé, mais là on est à une période historique et on peut bien le dire, c'est pas galvaudé parce que tout a changé finalement. Le 7 octobre 2023, l'attaque de membres du Hamas, du djihad islamique et d'autres sur Israël a été une attaque historique, et c'est l'équivalent de 10-11 septembre pour les Israéliens. La décapitation totale du Hezbollah a été un moment historique. Le fait qu'Israël ait rasé Gaza, 75% de Gaza est à terre. Enfin, c'est délirant quand même quand on y pense, avec un nombre de morts colossal, des dizaines de milliers, et notamment de gens qui sont civils et innocents et des enfants. Donc, ce qui est un problème. Parce que personne va pleurer sur le Hamas, mais le problème c'est les autres. Donc personne ne peut reprocher à Israël sa riposte. C'est la manière dont elle a mené sa riposte qui pose problème. La Syrie qui chute après 54 ans de dictature, arrive au pouvoir des gens dont on craignait absolument qu'ils arrivent au pouvoir il y a 10 ans, je le rappelle quand même, ces mouvements islamistes qui pour l'instant donnent beaucoup de gages et pour l'instant ça se passe correctement et on espère tous que ça va durer, que les minorités ne seront pas attaquées, etc. L'Iran qui s'est rapproché un petit peu de l'Arabie Saoudite ces derniers temps, mais gentiment, mais qui voit qu'il est quand même très affaibli. Trump qui revient au pouvoir. Tout est possible, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment à un carrefour extrêmement intéressant à suivre. Il est temps que les armes se taisent aussi pour qu'il n'y ait plus de victimes. Mais il va être très intéressant de voir cette reconstruction du Moyen-Orient parce que pour le coup, les cartes sont vraiment rebattues.
Merci beaucoup, Antoine Mariotti, d'avoir accepté de venir au micro pour cette 52e émission de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous avez écrit L'Agence, histoire secrète de la CIA aux éditions Talendier. Et c'est vraiment passionnant puisqu'on découvre et on pénètre dans les coulisses de cette grande maison. Donc, Complètement à l'Ouest, vous le savez, et c'est pas surprenant, poursuit sa route et son cap et reviendra donc le mois prochain pour une nouvelle émission, la 53e du genre, et bien sûr toujours aussi éclectique, décalée, bref, complètement à l'Ouest. Comme à mon habitude, bien sûr, mes remerciements à l'équipe technique qui œuvre en régie. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais sans eux, rien n'est possible. Et puis, bien sûr, je le rappelle à chaque fois, et bien cet épisode, de même que tous les autres, peuvent être écoutés ou réécoutés en podcast, en balado-diffusion sur les principaux players en ligne, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, vous savez tout, il ne reste plus qu'à préciser selon la formule qu'il faut garder le cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.